trois sorciers de Smart Bourse sont de sortie pour cette première échéance trimestrielle de cette année 2025. Un trimestre qui aura été particulièrement bénéfique pour les indices actions en Europe, contrairement aux indices actions américains. Il y a l'idée d'une grande rotation de flux et de performance opérée ces dernières semaines et ces derniers mois. Romain Dobré, donc, avec nous, en visio, consultant pour Bourse Direct. Bonsoir Romain, merci d'être avec nous. Vous êtes également cofondateur, je le précise, de l'atelier des options. Jean-Louis Cussac avec nous, trader, formateur chez Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir.
Et Philippe Béchade, le président des Econoclasts, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, également autour de cette table. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Romain, je commence avec vous, le bilan de cette échéance. Alors, je remets un peu les choses en perspective. C'est vrai qu'on a l'idée d'une grande rotation, une rotation du sentiment déjà. On a quitté le pessimisme sur l'Europe pour voir peut-être une forme d'optimisme se matérialiser au cours des dernières semaines, quand à l'inverse, on partait d'un optimisme peut-être un peu trop béat sur la situation américaine et de la bourse américaine, et c'est vrai que ce sentiment s'est passablement dégradé au cours des dernières semaines. Techniquement, qu'est-ce qu'on retient de cette première échéance trimestrielle de l'année, Romain ?
Bien, en fait, ça dépend de la place de cotation qu'on regarde. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que cette échéance, elle est un peu lourde globalement, avec des comportements différents si on regarde l'Europe ou les États-Unis. Si on commence par les États-Unis, on constate que la prise de bénéfices, la grande phase qui, à mon sens, est une phase de distribution qu'on avait évoquée plusieurs fois, se met en place et on a enregistré depuis fin février, pour la première fois sur le futur S&P, de la pression baissière, et ça faisait des mois qu'on n'avait pas eu ce genre de comportement. On voit des structures de retournement qui se mettent en place sur les grandes GAFAM et l'intérêt un peu béat que vous rappeliez est pris à contre-pied, de même que celui de très négatif, du sentiment très négatif sur l'Europe. Alors pour l'instant, si on regarde l'Europe, on est dans un petit mouvement de consolidation. On a perdu 111 points sur l'échéance en cours, 1,37% après plus de 900 points de hausse en deux mois. Donc ça reste un mouvement de pause. Mais c'est cette situation d'indécision actuelle qui domine et on se demande un peu quelles vont être les moteurs. On a d'un côté des configurations assez dégradées sur les indices américains, éventuellement de la pression baissière, des niveaux charnières qui sont testés en ce moment et des répliques baissières probables. Et puis en Europe, on voit qu'on commence à manquer de momentum. On a payé pas mal de choses. On a trouvé des relais d'intérêt, des foyers d'intérêt, mais qui ont déjà été hyper puissants. Hein. Si on regarde Thalès et une hausse de près de 100% en trois mois, on comprend que la poursuite haussière à court terme va être un peu compromise. Et en contrepartie de ça, on a une situation assez modeste en termes d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a eu un peu d'intérêt acheteur, mais on voit que rapidement, sur les points hauts, on prend du bénéfice. Donc, on n'a pas de comportement très franc. Et puis, une grosse, grosse complaisance du côté du ratio put-call en Europe, alors qu'à l'inverse, on a plutôt de la prudence sur des indices américains qui ont certes pas mal baissé, mais relativement doucement, et qui donc a laissé le temps aux opérateurs de se couvrir. Donc, on est dans cette situation un peu entre deux eaux, et les scénarios restent assez ouverts à court terme. Est-ce qu'on va pouvoir rebondir un peu, trouver des nouveaux relais? Quand on regarde les valeurs de l'indice CAC 40 individuellement, on se demande où est-ce qu'on va pouvoir repartir. Alors, est-ce que quelques valeurs du luxe qui sont en retard vont permettre de réagir un peu? Mais c'est pas certain. Et en contrepartie, la configuration, encore une fois, sur les valeurs américaines et les grandes GAFAM indique qu'on pourrait assister à des petits rebonds de court terme. Et c'est ce qui va être déterminant. Est-ce que ces rebonds vont être alimentés ou est-ce que ce sont des rebonds du chat mort, c'est-à-dire des petits mouvements de réaction sur des supports techniques avant de poursuivre à la baisse? C'est plutôt le scénario qu'on privilégie. Mais dans ce cas-là, quid de l'Europe qui est pour l'instant en stand-by? Et puis on peut se poser aussi la question de ce bazooka allemand dont vous parliez, qui n'a pas fait franchement réagir les marchés. Le comportement des opérateurs indique un peu de prudence, en tout cas à court terme.
Bon, on reviendra sur les marchés américains, puisque la clé, semble-t-il, est du côté quand même de ces marchés américains. Mais tour de table sur, cette échéance trimestrielle, et puis quand même cette surperformance de l'Europe, avec en plus un euro qui s'est un peu apprécié également ces dernières semaines. Jean-Louis.
Alors la clé, c'est plutôt Trump, parce que les marchés américains subissent. Aussi,
je disais, c'est le facteur numéro un du sentiment de marché depuis au moins le 20 janvier.
Là, Trump, c'est lui qui monopolise toute l'attention. Et c'est un perturbateur extrêmement puissant, avec des intervenants, des gérants, pas tout le monde. Manque de visibilité, c'est la première chose, je pense, qu'il faut poser. Pas de visibilité. Est-ce que il y a actuellement des facteurs qui me permettraient de penser qu'on va continuer à la baisse? La réponse est non.
Sur le marché américain?
Sur les deux marchés.
Sur les deux marchés. Ouais. Enfin, l'Europe on n'a pas beaucoup baissé en Europe.
Oui, mais on a fait 7910. À ce moment-là, on peut dire qu'il y avait du stress.
D'accord.
Moi, je voyais des gens, ils me disaient « Ah, ça y est, Jean-Louis, ça va partir. » Et moi, je disais, tant que ça ne casse pas 7910, je ne vends pas.
D'accord.
Et je ne vois pas pourquoi. Et en temps réel, j'ai envoyé les messages en disant qu'il n'y avait pas d'indication de baisse. Aujourd'hui encore, à un moment donné, quand ça baissait, je disais « Oui, ok, il y a 37 valeurs du CAC à la baisse. » Mais quand il y en a 37, ce sont des paniers, en règle générale, il y avait une grande régularité, il n'y avait pas un secteur ou une valeur ciblée, comme on a connu parfois, où là, vraiment, ça amène des fortes déstabilisations. Non, c'est, pour l'instant, il y a une situation plutôt d'attente.
Ouais.
C'est vrai que le bazooka allemand, on l'avait anticipé.
Enfin, le DAX, il sous-performe depuis octobre.
Hein. Oui, alors là, il sous-performe un petit peu.
Oui, depuis le MDAX a pris le relais.
Non, mais il y a un petit peu... Oui, les valeurs secondaires...
Les valeurs moyennes allemandes, elles se sont bien réveillées quand même. Hein.
C'est vrai. Donc là, on a donc plutôt une situation d'attente. L'euro-dollar, vous disiez tout à l'heure qu'il a bien boosté, oui, à partir du début du mois de mars, là. Il a atteint un niveau intéressant, mais là, ce qu'il freine depuis trois jours, c'est l'idée que la Fed, et Powell l'a dit, bon, il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien, etc., mais il n'a pas du tout annoncé un calendrier de baisse de taux, hein, il ne peut pas.
Il dit que le niveau d'incertitude est monumental.
Voilà, mais donc il ne peut pas, voilà, on sait que la Fed ne va pas baisser ses taux rapidement, alors que la Banque Centrale Européenne pourrait les baisser beaucoup plus rapidement. Donc du coup, ça a affecté un petit peu l'euro, il y a des anticipations sur l'euro un petit peu à la baisse. Là aussi, bon, il n'y a rien de très méchant. Moi, un retracement jusqu'à 1,0740 me paraîtrait normal.
On a fait quoi, 1,0950 quasiment, hein?
Ouais. J'avais 1,0930, on a beaucoup tapé dessus. On a fait un petit pointe à un moment donné. Souvent, on l'a fait hors séance, d'ailleurs, la pointe. Hors séance, c'est-à-dire hors horaire important, c'est-à-dire 8, 9 heures, 17 heures. Faut faire attention maintenant avec les décalages en ce moment. Mais voilà, on n'a pas de forte indication de ces marchés. Romain l'a dit, quel pourrait être le moteur? On voit pas trop. Alors, le moteur de l'Europe, ça serait l'Allemagne avec ce qu'ils ont prévu de faire. L'Allemagne pourrait redevenir le moteur. Mais d'accord. Mais moi, j'ai lu des choses où ils disent que c'est quand même pas simple de voir un peu, de voir l'impact. C'est sur 12 ans.
C'est du long cours.
Donc, c'est un peu compliqué. Alors, bon. C'est compliqué par-ci, c'est compliqué par-là. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, ça va pas trop. La Russie et l'Ukraine, on n'arrive pas à régler le problème. Et partout, c'est comme ça. Il y a des points d'interrogation partout. C'est pour ça que l'or, d'ailleurs, on y reviendra peut-être
à
booster.
Oui, bien sûr.
Et puis à continuer de progresser. Bon, alors,
et puis, il y a quand même cette date du 2 avril, dans l'idée de l'incertitude et de l'attente.
Ouais.
Trump nous promet les tarifs réciproques le 2 avril, après la remise du rapport par le Trésor américain. Tout le monde est dans l'attente de ce qui va se passer le 2 avril. Il appelle ça le jour de libération de l'Amérique, désormais, dans le narratif politique de Trump. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une date qui est déjà presque sacrée de ce point de vue-là. Donc, le marché attend maintenant le 2 avril, quoi.
Il y avait le 4 juillet, maintenant, c'est le... Donc, oui, alors voilà, ça fait partie des choses qui font qu'on attend, on attend, il y a du brouillard. Mais, encore une fois, avec ce que j'observe des marchés, avec une volatilité implicite qui est toujours très élevée, on a quand même fait un point haut avec une vol à 14.
Ouais.
Là, elle est remontée jusqu'à 16,5. Il y a eu, quand il y a eu des petits pics de stress, 16,5. Et là, aujourd'hui, elle était à 16. Donc, il n'y a pas de complaisance.
Ouais, ouais. On n'est pas à 10, quoi.
On n'est pas à 10.
Ouais, ouais.
Vous rendez compte? Encore une fois, rappelez, en 2019, quand je disais attention, barrez-vous, etc. Parce qu'on était à 10 de vol avec un marché au plus haut.
Ah, okay. Ouais.
Bon, 10, c'était quand même un peu faible. Parce que quand ça monte, la vol baisse, mais quand ça commence à stagner, il devrait y avoir une méfiance qui s'installe. Et là, à l'époque, pas du tout. Là, la méfiance, elle est constante. Donc, si vous voulez... Sur le plan de la construction, et je le répète depuis longtemps, c'est-à-dire qu'en fait, c'est rare que j'avais cette vision des choses où la vol était constamment élevée Ce qui fait que, bon, ben, à part des événements ponctuels, vraiment, vraiment ponctuels, ben, le marché reste ferme et les différents acteurs, gestion, etc., sont plutôt à la recherche d'idées d'achat. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont allés sur des valeurs un peu secondaires aussi, etc.
Philippe, votre bilan de cette échéance, et puis voilà, moi je remets un peu les choses en perspective aussi, au-delà de l'échéance stricto sensu, quand même cette divergence de performance, alors ça s'est un peu calmé là depuis une semaine, 10 jours, mais quand même, depuis le début de l'année, on a rarement vu ça, moins 10 aux États-Unis et plus 10 en Europe, quoi.
Ouais, c'est même du jamais vu, en tout cas... Sur les 50 dernières années, un différentiel de performance de 20% entre Francfort et un mix du Nasdaq et du S&P, ça n'a jamais existé. L'année dernière, ça a existé dans l'autre sens. Ça a mis un an. Ouais. Ça a mis 52 semaines pour qu'on arrive à un différentiel. On a le CAC était évidemment le plus vulnérable. Donc lui, il s'est pris 20% dans la vue. Mais globalement, là... C'est en 4 semaines que ça se fait.
Bien sûr.
Bon, c'est un phénomène d'une brutalité extraordinaire. Les ventes d'actions, par ce qu'on appelle les grands initiés, hein, les patrons, les grands patrons des 7 fantastiques, le JP Morgan, mais ils vendent pas 3-4 millions de titres. Enfin, ils vendent pour 150, 200 millions.
Et j'ai vu qu'ils en rachetaient, là. Hein. J'ai vu que les insiders avaient racheté un peu.
Après avoir
beaucoup vendu.
Voilà, je vends 100 et je rachète 5. Bon, à un moment, je vais essayer de faire un petit peu de trading sur... parce que je m'ennuie. Non, mais enfin, les insiders, ouais, ils ont vendu massivement. Et là, ce qu'on a vu la semaine dernière, après le deuxième petit trou d'air, là, le 13 mars, qu'est-ce qui revient? C'est surtout le retail, c'est-à-dire l'investisseur particulier, je pense que Romain pourrait confirmer, les 7 fantastiques qui viennent de perdre maintenant 25% sur leur point haut du 6 décembre. Ah, c'est les soldes, j'y vais.
Et c'est pas une bonne idée?
Je sais pas. Enfin, moi,
c'est une question, hein. 25% de baisse, ça peut se regarder. Ouais, mais
sur un titre qui a fait x4 ou x5.
Ah, bah, sûr.
Oui, c'est sûr, par rapport au sommet, on se dit quand même que ça fait une différence.
Ah, une Tesla, elle a baissé de 50% hein, aussi.
Oui, mais elle est encore en hausse par rapport à il y a un an. Mais les autres, les Palantir, les Broadcom, les Snowflake, etc., c'est des valorisations invraisemblables et c'est des cours multipliés par X. Donc 25%, c'est en fait rien. Puis moi, je regardais...
C'est-à-dire qu'on ne voit pas de gens qui ont encore perdu de l'argent vraiment sur ce trade des 7 magnifiques.
Ceux qui vont perdre de l'argent, c'est ceux qui sont rentrés massivement la semaine dernière en disant « on fait les soldes ». Alors ceux-là, quand ils vont commencer à perdre 20%, là, ça va commencer à leur faire bizarre. Mais ceux qui ont acheté du Palantir à 30$, s'ils retombent en dessous
de 100... Ah bah c'est sûr qu'il y a le temps de voir venir, oui.
Il y a un peu le temps de voir venir. Et je trouve franchement que les configurations sur le S&P et sur le Nasdaq sont vraiment, vraiment mais très très moches, hein.
Bah on regarde, on a le graphe du S&P là que nous a apporté Romain. Bah allez-y, Philippe, oui, effectivement, pourquoi c'est très moche alors?
Bah ça fait des doubles têtes, ça casse les droites de tendance moyen terme, ça passe sous les moyennes mobiles à 100, voilà. Alors le trend long terme, oui, il n'est pas encore compromis. Il faudrait redescendre en dessous de 5000. C'est-à-dire qu'il y a encore de la marge. Bon, même beaucoup de marge. Mais...
Parce que là, moins 10, c'est toujours le... Enfin, moins 10, c'est le consensus de l'idée d'une correction de marché. Ça s'est fait en 16 séances sur le S&P 500.
C'était la
troisième correction... la septième correction la plus rapide de l'histoire.
Et là, elle était bien linéaire. Là, on va avoir un rebond qui est peut-être, comme d'habitude, tous les rebonds en V sont un peu linéaires. Maintenant, jusqu'où ça nous mène, moi, je pense que 5850, ça commence à devenir un petit peu chaud. Enfin, en tout cas, je trouve que on ne voit pas bien dans le détail, mais les configurations sur le S&P, elle est vraiment moche. Celle sur le Nasdaq, elle est vraiment moche. Le Russell 2000, il veut toujours pas. Hein. Je rappelle que le Russell 2000, aujourd'hui, est 10% en dessous de ses niveaux d'avant le 6 novembre.
Hein. C'était censé être le Trump Trade. Hein.
C'était le Trump Trade. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui m'alertent. Puis on en reparlera certainement dans l'émission. L'or continue de monter, alors à contre-courant, d'une hausse de 50 points des taux en Europe, d'un dollar qui sera fermé. Bon, manifestement, il y a autre chose qui se joue derrière. Puis je ne sais pas si toi, tu l'as vu... Mais on a eu plusieurs trous d'air en préouverture sur le S&P depuis le 20 février dernier. C'est assez bizarre comme phénomène.
Sur les futurs?
Ouais, sur les futurs. D'accord. Il y en a eu encore un hier matin. On ne sait pas qui vend, mais en tout cas, c'est quand même des grosses mains. Donc, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Louis.
On verra. Non, mais je voulais que Romain puisse commenter son graphique. Donc, c'est une vue mensuelle du S&P 500. Romain, vous disiez effectivement, l'idée à ce stade, c'est qu'on est plutôt dans une phase de distribution, c'est ça, avec un risque de baisse un peu plus marqué que les 10% qu'on a déjà encaissés.
Oui, manifestement, c'est plus la lecture à court terme qui est compliquée. À moyen terme, on voit que c'est dégradé et je suis entièrement d'accord avec Philippe. Les configurations sont moches. Elles sont pas encore franches et on peut assister à des contre-pieds. Encore une fois, les grosses mains, les grands acteurs du marché sont susceptibles de vider les carnets d'ordre et d'un coup d'enlever cette pression baissière qu'on constate. Et Philippe disait depuis le 20 février, en tout cas sur les futurs américains, sur le S&P, on a constaté pour la première fois depuis des mois de la pression baissière. C'est-à-dire que quand l'indice S&P a baissé, on a vu le nombre de contrats futurs augmenter. Ça, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Donc, il y a peut-être des positions fortes qui sont en train de se construire à la baisse. Et c'est la nature éventuelle du rebond ou l'accélération baissière complémentaire qui nous permettra d'en savoir plus. Si on accélère, par définition, c'est que le sens est donné. Et c'est si on rebondit, est-ce qu'on va avoir un peu d'intérêt? On connaît ces rebonds du chat mort, ces rebonds sans soutien. Et effectivement, sont plutôt des mains faibles qui payent. Donc là, on est passé sous un niveau d'alerte, 5770 points. On n'a pas été chercher les cibles idéales tout de suite, mais on tente de stabiliser. Mais il faut dire que l'aspect technique lié à cette grosse échéance du mois de mars joue techniquement. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir à partir de la semaine prochaine comment on construit le nouveau trimestre, la nouvelle échéance d'avril, qui par ailleurs, pour détail et précision, se terminera le jeudi 17 avril et non pas un vendredi, puisque le vendredi est férié. Oui, mais oui. Mais on a donc des signes lourds et des répliques baissières qui sont plus que probables sur ces indices américains, avec des volumes plus lourds dans le mouvement de baisse. Et la seule chose qui s'est produite, c'est qu'il y a de la protection sur des niveaux bien identifiés qui ont permis de ralentir le mouvement de baisse à court terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne retourne pas et qu'on n'ait pas à nouveau des accélérations baissières. Donc, de toute façon, on voit que ce sont des rotations lourdes et pas des mouvements ponctuels. Il y a quelque chose de plus lourd derrière ça, en effet, pour l'instant, et des extensions qui peuvent mener avec encore des cibles situées aux alentours de 5200 points, pourquoi pas sur le S&P notamment.
Pourquoi est-ce qu'il faut suivre Microsoft dans ce contexte? Quels sont les éléments d'information que nous apporte un poids lourd comme Microsoft spécifiquement, si vous l'utilisez en tant que baromètre là, Romain?
Mais je pense que c'est effectivement un très bon baromètre Microsoft, parce qu'elle a baissé d'environ 20% sur ses points hauts. C'est celle qui a parmi les GAFAM à peu près le moins baissé. C'est parce que c'est un poids lourd et qu'effectivement elle est sortie par le bas d'une grande structure normalement de pause, qui est un triangle symétrique. Elle donne, avec cette configuration-là, une cible baissière et des extensions qui peuvent mener jusqu'à 318. Donc, ça laisse des extensions baissières importantes. Reste que pour l'instant, elle se stabilise autour d'un gros niveau, qui est un niveau clé, 386. Et si elle arrive à rebondir sur ce niveau-là, c'est la nature de ce rebond qui va nous en dire plus pour la suite. Est-ce qu'on a vu la fin de la consolidation? Est-ce qu'on reconstruit quelque chose? Ou est-ce qu'on rebondit sans volume, sans soutien? Et auquel cas, on peut aller chercher un niveau clé comme 404,5 qui donnerait dans ces cas-là ce qu'on appelle un pullback. On va rechercher la borne basse d'une structure rompue pour valider cette structure et redonner des accélérations baissières. Donc, ça va être la nature de ce rebond. Et si on arrive à se réinstaller au-delà de 404,5 avec du soutien, ou si on continue à baisser et à aller rompre ce niveau de 386, ça va nous en dire beaucoup plus sur le comportement des opérateurs et sur la nature de la situation actuelle. Mais la configuration milite vraiment plus pour des extensions baissières pour l'instant.
Jean-Louis, force-faiblesse du marché américain. Ce qui est intéressant, c'est que la hausse était très concentrée autour des Mag 7 pendant 18 mois. La baisse est aussi très concentrée autour de ce même groupe de valeurs qui perd 25-30% en moyenne. Si on enlève les Mag 7, le S&P perd pas 10%, quoi.
Oui, mais il y a quand même beaucoup de valeurs que sur Nike, donc
ouais, a beaucoup FedEx, aussi, Nike,
FedEx, oui, oui. Il y en a eu d'autres. AMD, elle est au plus bas. Ouais. Broadcom a baissé, mais c'est vrai qu'elle fait partie des grosses. Intel s'était écroulé. Et puis, il y a eu beaucoup de spéculations sur son avenir. Elle est passée de 19 à 27, elle est revenue à 23. Enfin, et ça bouge dans tous les sens. Mais elle est basse. Elle est basse. Donc, il y a quand même aussi des possibilités à ce niveau-là. Alors, moi, sur le plan technique, j'avais déclenché un signal de vente sur le SP500. D'abord, au mois de décembre, donc ça remonte, 18 décembre, première alerte, et puis je vous avais dit en janvier, à la fin de la... que ben, moi j'étais en synthétique, c'est-à-dire en poudre synthétique, acheteur de call, parce qu'il n'y avait pas trop de vol, et puis vendeur de futur. Alors ça a mis du temps hein, à baisser, hein. Mais c'est vrai que là, ces derniers jours, ça a été plutôt extrêmement favorable, et là, du coup, j'ai quasi tout liquidé. Pourquoi ? Parce que vous savez, quand on n'est pas devin, mais quand on regarde un marché, on doit se poser des questions. Qu'est-ce que je vois ? Est-ce que ce sont des indications haussières, baissières ? Bon, là, c'était des indications baissières. On a beaucoup baissé, 10%, c'est pas mal. Il y a une redistribution des forces. Si jamais ça ne rebondit pas, en effet, ça risque de repartir à la baisse. OK. Et en effet, on peut faire du 10% de plus, pourquoi pas. Mais moi, là, ce que je vois à l'instant T, c'est que le marché ne m'envoie pas de signal qui va encore baisser, c'est tout. Après, il peut y avoir un catalyseur qui arrive.
Ah bah, il peut y en avoir 10 en une heure avec Trump. Hein.
Voilà. Mais donc, oui. Moi, je suis extrêmement prudent. J'ai une position... j'étais chargé, j'étais fatigué d'ailleurs, hein. Décembre, janvier, février, là, mars, ah ouais, je commençais à en avoir marre un peu. Bah oui, parce qu'il y avait quand même des mouvements, on a eu des
trucs... Ah bah ça a été très violent et très rapide, hein, ça va vite. Hein.
Ouais, mais on a eu des mouvements de baisse, de reprise, on a refait un top, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? À 10 points près, enfin, ouais. Pas beaucoup plus important, mais c'est perturbant hein, quand vous attendez sur une position, ça m'a rappelé 2007-2008, là, quand j'attendais le crash, mais bon, ça a été, oui, ça a été long.
Jamais pas. Bon d'avoir raison trop tôt.
Oui, c'est difficile.
Ah, oui, oui.
Et donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis, bon, pour l'instant, non, ça peut tenir. Il y a des valeurs qui peuvent repartir, amener le moral. Pour l'instant, il n'est pas cassé. 10% après tout, ok, c'est un retracement qu'il faut comparer avec la hausse qu'il y a eu. Donc c'est vrai, sur le plan technique, les moyennes mobiles, moi ce que je regarde sont à la baisse, c'est plutôt des indications baissières, mais on voit que depuis quelques jours, le marché tient plutôt pas mal, que tout à l'heure il était un peu faible à 16h, et puis là, hop, il rebondit un petit peu.
Ça me fait penser au débat, alors sur le plan macro qu'on a autour de récession ou pas récession, c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de récession aux États-Unis que tout le monde se demande si c'est pas maintenant, enfin, c'est pas la question qu'on se posait il y a 3 mois, hein, mais c'est la question qui vient assez vite quand le marché a perdu 10%. Ouais. Bon, comme le dit Jérôme Poel, oui, il y a des enquêtes qui montrent ici et là des signaux d'affaiblissement. Mais les données dures, pour l'instant, non. Elles n'envoient pas ce signal.
Tout à fait.
Peut-être que ce sera le cas demain, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Voilà. Donc là, si vous voulez, c'est peut-être pas ce qu'on pourrait conclure, c'est de dire, bon, par exemple, je répète, hein, 7910 cassés...
ça, c'est sur le CAC.
Voilà, je passe vendeur. Sur le CAC, sur le SP500, moi, je suis vendeur depuis 7770, je crois.
Il n'y a pas eu 7770 5770. Pas encore.
5770. Et je crois que c'était ce niveau-là. Peut-être que j'avais remonté une première ALR, 5800 et quelques. Et puis bon, enfin, d'abord, il y a la neutralité, ensuite le passage à la baisse. Et l'objectif c'est des 5005 à être atteint. Le prochain, le très gros, c'est 5240. Bon, on n'en est pas là.
Ouais.
Mais aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas le moment des grandes manœuvres qui consisterait à dire je monte une stratégie basée sur 5200. Non. On ne peut pas faire ça. Si on le fait maintenant, on prend un risque trop important. Il faut attendre des indications. Il vaut mieux prendre le train en marche s'il y a une impulsion qui se déclenche.
Je comprends.
Plutôt que bouger maintenant.
Prendre le risque.
Moi, là, je m'amuse, entre guillemets. Je travaille des Broadcom à l'achat. Je travaille Intel. Je travaille AMD. Mais
donc, les retardataires, quoi. C'est ça.
Alors, Broadcom, pas vraiment retardataire, mais quand il vient vers 186, plusieurs fois, je l'ai acheté, j'ai revendu. Alors, bon, c'est pas pour de l'investissement long terme. Une fois, le plus long que j'ai gardé, c'est 3-4 jours parce que j'étais planté. J'étais planté, mais en même temps, j'étais pas infirmé. Le marché me disait pas, attends, il fallait patienter, mais j'ai patienté 4-5 jours. Bon, là, en l'occurrence, moi, c'est cela que je fais actuellement, c'est-à-dire du stock picking à l'achat sur des valeurs en retard qui offrent des potentiels.
Philippe, vos commentaires, et puis je veux bien qu'on parle un peu du dollar, des taux américains et de l'or, puisque tout le monde veut parler de l'or.
J'essaie de trouver un angle qui nous permet de faire la synthèse. En fait, le véritable enjeu aujourd'hui, c'est les 9 000 milliards de dettes américaines à refinancer. Dans l'histoire des États-Unis récente, on va dire sur les 15 ou 20 dernières années, je crois que le maximum qu'il y a eu à refinancer, ça a pu être 4 000 milliards, donc on est au double. Qu'est-ce que c'est que ces 9 000 milliards ? c'est les chèques fédéraux de 2021. Hein, tout le monde attendait son chèque de 2 000 $. Ben voilà, maintenant, il faut refinancer ça, parce que ça a été des émissions à 5 ans. Il y aura après ça une nouvelle vague à 10 ans, mais ouais, massivement, c'est plutôt du 5 ans. Et là, en fait, ça se concentre même au premier semestre.
Bon, D'ailleurs, la Fed a ralenti un peu la réduction de son bilan.
Bah, bien sûr, elle va pas remettre de l'huile sur le feu.
Elle n'a pas baissé les taux, mais elle a quand même joué la carte accommodante.
Elle ne va pas remettre du papier sur le marché pendant que l'État américain essaie d'en placer. Et là, ça ferait un peu beaucoup. Bon, en réalité, en imaginant même qu'il y ait 7 000 milliards à refinancer d'ici l'été, après ça sera un autre game, hein. Après Jackson Hole en août, ça sera, le marché sera sûrement sur d'autres hypothèses, mais là, d'ici le milieu de l'été, la masse à refinancer est tellement gigantesque, ouais, et l'épargne mondiale, à mon avis, n'y suffit pas. Un des moyens, hein, de faire en sorte que ce papier soit placé, ben, c'est que la bourse baisse. Mmh. Et qu'est-ce que nous dit Trump et Scott Bessent ?
Acheter des taux longs.
Acheter des taux longs. Alors Trump, lui, bah, la bourse n'est plus ma boussole. Scott Bessent, bah, les marchés, ça monte, ça corrige. Les corrections, d'ailleurs, c'est plutôt sain, hein, pour les marchés.
À 10%, ça arrive tout le temps.
Voilà.
10%,
la récession,
c'est la vie.
Ah, je ne crois pas trop, mais bah, on ne peut pas non plus.
Transition, période de transition,
voilà,
il dit.
Bon, la transition, on a bien compris que ça pourrait être une transition vers une période un petit peu récessionniste. Donc, ça... Tous les discours que l'on entend visent à faire en sorte que la poche action se dégonfle un peu pour aller sur la poche obligataire.
Donc il faut écouter le trader Trump, il faut acheter des taux longs américains, oui. C'est la baisse des taux longs, on veut voir les taux longs baisser.
Oui, mais alors ça, donc, alors, le mot récession, c'est pour forcer la Fed, bien sûr, à baisser les taux. Ça, on a bien compris. Pas rester sur une hypothèse à 2 baisses de taux cette année, aller à 3, voire pourquoi pas plus. Mais c'est surtout que là, mécaniquement, là, il y a tellement de dettes à refinancer qu'il faut que l'argent sorte de quelque part. Ça ne va pas sortir des presses de la Fed. Sinon, alors là, le dollar, il est effondré. Enfin, un quart, il faudrait créer un quart de masse monétaire en plus. Ça n'a pas de sens. Donc, ça ne se fera pas comme ça. Donc, oui, il faut dégonfler la poche action, faire gonfler un peu la poche obligataire. Et ça va se faire sans douleur. Si ce n'est pas le cas et qu'on continue de vouloir aller tirer le Nasdaq, allez, on va aller quand même retourner à 22 000 sur le Nasdaq 100, etc., vous allez voir un jour les taux qui vont se prendre 30-40 points dans la séance, on ne va pas comprendre pourquoi. En Europe, on vient de se prendre 50 points. On sait pourquoi, ça y est, l'Allemagne valide son...
Donc ils essayent de refroidir, quoi.
Voilà. En tout cas,
oui.
Je relativise, attention, c'est 500 milliards sur 10 ans. Le PIB allemand, c'est 4500 milliards. C'est même pas 1%, hein, par an, le bazooka.
Oui, enfin, ça fait quand même 10% sur 10 ans.
Plus
le déblocage des dépenses, du frein à la dette, etc. On est quand même sur un ordre de grandeur qui est quand même massif.
Oui, mais ça fera pas 3% de croissance en Allemagne en plus.
Non, mais ça peut doubler déjà, la doubler à 1,5.
Ah ben là, non, double rien, on est à 0, donc X fois 0.
Oui, d'accord. Bon, ouais.
Non, mais c'est pour dire que faut pas non plus imaginer que le PIB allemand va se retrouver à plus 2 dans les 18 mois.
Un et demi, pourquoi pas ? Ça fait 5 ans qu'il n'y a plus de croissance en Allemagne. Ce serait quand même déjà un changement de régime notable, Philippe.
C'est ce que le marché a déjà pricé.
Bien sûr, c'est sa fonction.
À 22 400 ou 23 400 sur le DAX, on a déjà pricé une croissance merveilleuse.
On l'avait pas pricé dans les valeurs locales, domestiques, allemandes, les petites et moyennes capitalisations. Là, le MDAX, quand le DAX s'envolait grâce à 3 valeurs... le MDAX faisait rien depuis 5 ans, conformément à la croissance allemande qui était complètement atone. Là, ça a bougé un peu quand même.
Ouais. Enfin, l'avance prise par le DAX, c'est quand même 60% de hausse depuis fin octobre 2023.
Ah bah oui.
L'avance prise, alors que l'Allemagne a aligné dans le même temps 8 et maintenant un 9e trimestre de récession, c'est assez fou quand même.
Sur l'or, puisque gardez la parole, Philippe, puisque vous vouliez parler de l'or. Sky is the limit, là.
Je pense que l'or, aujourd'hui, qui monte envers et contre tous les hausses de taux, le dollar qui va mieux, tout ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on a manifestement, aujourd'hui, une rotation. Les obligations, ça fait quand même pas tellement envie, parce que même si ça peut servir de refuge à court terme, On a quand même de la planche à billets en Europe, ça s'appelle pas autrement ce qu'on fait, 1300 milliards en plus, ils sortent d'où, hein, et les États-Unis, ils vont pas réussir à réduire leurs dépenses de 3000 milliards comme ils les avaient augmentées l'année dernière. Donc on va forcément avoir un truc qui ressemble à de la planche à billets. Donc c'est à nouveau les devises qui vont être
oui.
Leur pouvoir d'achat va continuer d'être raboté. Donc je comprends, enfin, et si on ne comprend pas aujourd'hui les anticipations, c'est une perte de pouvoir d'achat des monnaies, on comprend pas la hausse de l'or. Et là, manifestement, l'or nous envoie vraiment un message très très fort.
Ouais. Romain, alors il y a les métaux, vous vouliez nous parler du cuivre. Je veux bien qu'on revienne quand même sur quelques secteurs là au sein des marchés européens, du CAC, etc. C'est vrai qu'on a vu les bancaires accélérer à la hausse, le secteur de la défense, bien sûr. Est-ce que c'est des secteurs qui deviennent trop chauds aujourd'hui pour continuer de les conserver? On a revu un réeffondrement du luxe aussi, ça a été spectaculaire là sur quelques semaines. Bon, secteur fort, secteur faible, et puis les secteurs qui présentent peut-être un risk-reward intéressant selon vous aujourd'hui, Romain?
Alors, secteur fort, vous les avez cités en grande partie. Sur le secteur bancaire, ça peut continuer un petit peu. On approche de cibles graphiques sur la BNP, on approche de cibles graphiques sur le Crédit Agricole. On a encore un peu de marge sur la Société Générale, peut-être 7 ou 8%, mais ça commence à être bien payé, en tout cas à court terme, même si il peut y avoir du potentiel. Secteur fort est toujours les utilities, plus récemment. L'assurance, ça fait des mois. Et puis, un secteur comme les télécoms aussi, qu'on repaye. C'est ça qui est intéressant de constater, ce sont ces foyers d'intérêt très localisés sur quelques secteurs qui étaient, alors, pour certains, en retard, notamment le secteur des télécoms que vous avez ici. On vient d'atteindre une première cible graphique après une réactivation haussière de très long terme. Et c'est un trend qui ne se dément pas, qui continue et qui stabilise autour d'une première cible. Mais il y a encore du potentiel et encore des extensions possibles, manifestement, même si on pourrait assister à une pause. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le comportement sur certaines valeurs. On a des titres un peu oubliés, entre guillemets, comme Veolia, Environnement, qui pourraient poursuivre leur parcours haussier. Tandis que vous parliez du secteur du luxe, c'est assez plombé. On voyait une tentative de réactivation haussière sur Kering. Elle est bien vraiment mise à mal cette semaine. Hermès reste sur des points hauts. Et quant à LVMH, elle ne donne pas d'indication de retournement haussier de long terme pour l'instant. Peut-être des réactions techniques. C'est peut-être ça qui pourrait alimenter une hausse. Mais encore une fois, on va privilégier dans ce moment d'incertitude et de flou le stock picking. Et on n'attend pas un gros momentum sur les indices, mais quelques foyers d'intérêt très localisés.
Les télécoms, oui, c'est un secteur, il y a un graphique hein, sur les télécoms, là, c'est un secteur dans son ensemble qui présente de l'intérêt pour vous, Romain?
Et il en présente depuis quelque temps, puisqu'il a vraiment réactivé une dynamique haussière. On est sorti d'une congestion qui était active depuis 2016. On en est sorti récemment. Et donc, on a déjà fait une partie du chemin. C'est un mouvement qui est assez lent, mais au moins, c'est assez régulier. Et dans un marché qui est dans l'incertitude, ça fait partie des trends de fond et des trends manifestement payés par des grosses mains du marché, avec encore un potentiel sur le produit en question pour aller chercher des extensions de 6 euros environ.
Bon, on est tranquille avec les télécoms. L'univers des small et mid cap, qu'est-ce qu'on peut en dire? On essaye de suivre un peu les indices large, quoi. J'ai l'impression qu'il y a moins d'écart, il y a moins de différentiel que ce qu'on a pu observer dans les mois, les trimestres et les années précédentes même, Jean-Louis.
Étant donné la divergence de performance, il y a eu clairement beaucoup d'intérêt sur les mid et small. Une présence très forte de la spéculation. Moi, je le sais parce qu'en plus, j'ai des copains qui spéculent énormément sur ces valeurs.
Oui, il y a un côté un peu même stock, quoi. Enfin, on est reparti avec des valeurs.
Donc voilà, il y a quand même beaucoup de spéculation, beaucoup aussi de problèmes techniques, par exemple Telsat qui explose, mais après il y a les problèmes de prêt-emprunt parce qu'il y a les vendeurs qui sont pris à la gorge, enfin bon, il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Il y avait des secteurs comme les EMEIS,
les EHPAD.
Les EHPAD, les maisons de santé, enfin ouais. Retraite,
Clariane, ouais.
Clariane qui a explosé, toutes ces valeurs-là qui étaient... Il y a Elena qui n'a pas bougé, bon, mais elle n'a pas baissé autant que les autres non plus, mais c'est un secteur qui était pas mal. Bon, c'est vrai que pendant ce temps-là, on a des LVMH qui ont perdu 15, des Kering qui ont perdu 28 dans le mois, là, je parle. Donc c'est violent. Non, il y a des valeurs comme Derichebourg qui ont bien fonctionné. Bon, la Sodexo s'est pris une baffe. C'est hyper violent. Quand elle a entraîné Elior un petit peu. Bon, pourtant, ils sont moins quand même aux États-Unis, présents aux États-Unis. Mais alors, voilà, il y a quand même des valeurs. Les valeurs, on peut dire, de qualité. On n'avait pas eu ça précédemment. Ouais. Les valeurs secondaires de qualité ont bien progressé dans l'ensemble.
Intéressant. Intéressant.
Voilà, je le vois sur un petit portefeuille que je m'étais comme ça construit. Et il a gagné 20% en quelques semaines.
La discrimination se fait aussi par la qualité de ces dossiers dans cet univers.
Mais de toute façon, tout le monde reste hyper sélectif. Regardez Beneteau aujourd'hui qui se prend une baffe parce qu'il y a un truc qui ne plaît pas. Donc il y a quand même des réactions qui sont extrêmement fortes, marquées. Et c'est ça aussi qui fait que il y a pas de complaisance et c'est pour ça que les marchés sont solides aussi parce que ils vont pas n'importe où. Avant on avait des mouvements d'ensemble et là aujourd'hui depuis longtemps maintenant quand même on a des mouvements extrêmement divergents
localisés. Je vous propose action chinoise Philippe mais je si le thème vous intéresse parce que c'est aussi un des grands trades, une grande remontada depuis quelques mois maintenant.
Oui. Ce ne sera pas BYD par hasard. Hein ?
Ah ben non, mais c'est la tech, il y a eu le moment DeepSeek, BYD, on redécouvre un certain nombre de valeurs chinoises, notamment autour de la technologie. Moi, on parle beaucoup des biotech chinoises aussi. Je crois qu'on est en train de prendre conscience que les sciences de la vie en Chine ont connu des avancées spectaculaires par rapport aux avancées qu'on peut nous avoir, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc on a pas mal de secteurs tech comme ça qui sont en Chine largement au niveau de ce qu'on peut connaître. Je ne parle pas boursièrement, mais au niveau d'innovation, de ce qu'on peut connaître en Europe ou aux États-Unis.
Ah mais la Chine, c'est hallucinant. Alors, je ne dirais pas que je suis très très pressé de retourner prendre un peu la température d'un système de contrôle, etc. Mais au niveau technologique, ils continuent d'avancer à un rythme. Nous, on est complètement à l'arrêt. Enfin, je dirais même on est complètement à la ramasse. Voilà. La seule chose sur laquelle on a encore de quoi soutenir la comparaison, c'est sur la fusion nucléaire. On arrive à tenir des fusions pendant un quart d'heure, 20 minutes, à peu près autant que les Chinois. Sauf que les Chinois vont construire un monstre où là, ils espèrent tenir 24 heures et que nous, on va rester avec un petit truc à cas d'arrache. Et que ça, voilà, c'est bien. On a été les pionniers.
Bye bye Super Phoenix.
Mais alors, peut-être que ça va être relancé. Enfin, là aussi, mais le sabotage de notre filière nucléaire, il faudra qu'un...
Bon, mais sur les actions chinoises, du coup. Oui, on fera le...
Mais non, mais faut voir.
Non, mais je suis d'accord.
Mais en Chine, c'est incroyable. Ils ont réussi à construire autant de réacteurs en 10 ans que nous en 30 ans. Enfin, voilà. Et en plus, ça, il fonctionne. Il marche, il n'y a pas des retards de folie, etc. Donc, la Chine, il y a un moment où elle s'impose.
Et c'est redevenu bullish, les indices chinois, le Hang Seng.
Alors là, d'un seul coup, le BYD...
C'est suracheté déjà ?
Quand je parlais de BYD, parce que c'est l'exemple emblématique. Bon, ils ont doublé Tesla, ils produisent des voitures qui savent se garer en crabe. Il y a des avancées technologiques dans tous les sens, tout ça pour moins cher qu'une mégane électrique. Bon, il y a un moment, il faut se poser des questions. Donc, les actions chinoises, il y en a quelques-unes qui sont attractives, mais quand ça vient de doubler, comme ça vient de le faire, ça va un petit peu vite. Alors, derrière, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça va pas aussi être un moment, enfin, ça va pas être redevenir le moment de l'Inde, qui corrige depuis 6 mois.
C'est vrai.
Et bon, il y a un petit sursaut qui émerge. Il y a peut-être encore de la place. Sur la Chine, c'est peut-être déjà un peu joué.
Ouais. Romain, il nous reste une minute pour parler du cuivre. Vous êtes venu avec deux graphiques sur le cuivre. Je ne sais pas lequel vous voulez montrer. Cuivre versus pétrole, c'est celui-là qu'on peut regarder avec vous ?
C'est peut-être celui-là qui sera le plus intéressant.
Une minute.
Le cuivre a en fait un parcours haussier et solide depuis plusieurs semaines maintenant, et il est en train de déborder des niveaux de résistance de très long terme. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'il y a une divergence avec le WTI, qui lui, en revanche, baisse depuis octobre 2023. Donc on a naturellement et historiquement, on voit des comportements qui sont assez corrélés entre les deux, et cette divergence-là, eh bien, elle est à prendre en compte, puisque d'une part, il y a de l'intérêt sur le cuivre et des mouvements haussiers qui paraissent forts, et ce WTI qui est en retard et qui pourrait former un contre-pied et rebondir. Donc peut-être un rebond du pétrole, un mouvement haussier sur le cuivre, et puis ça nous indique aussi qu'il y a des minières spécialisées sur le cuivre. Je pense à Freeport-McMoRan ou Southern Copper, et des paniers éventuellement qui pourraient bénéficier de cette avance du cuivre et qui, elles, pour l'instant, n'ont pas beaucoup performé. Donc peut-être des intérêts, des foyers de rattrapage à surveiller et des domaines un petit peu oubliés ou un peu en retrait pour l'instant.
Messieurs, merci aux trois sorciers de Smart Bourse pour leur analyse de la situation des marchés et leur éclairage sur ces questions techniques parfois. Merci beaucoup à vous trois, Romain Dobry, consultant Bourse Direct, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, Philippe Béchade, président des Econoclasts et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien.